Ah oui, donc, ah oui, donc, le Slay Rondeau qui est présent, le Ben Ryu qui arrive d'un chalet avec les As. Qu'est-ce qui se passe au chalet? Reste au chalet.
C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Yes. Ah, là, t'as-tu encore un peu d'énergie pour le show d'aujourd'hui?
Hey, oui, surtout avec l'invité de Marc qu'on a. Je suis tellement content de le recevoir. C'est quelqu'un que je considère maintenant un ami et quelqu'un qui aime beaucoup plus parler des autres que parler de lui. Hein? Puis c'est un gars qui a un impact positif tout le temps sur plein de monde. Mais aujourd'hui... on va se permettre de parler de lui un peu. Là. On va sans doute trouver un moyen de retourner le spotlight sur quelqu'un d'autre. Là. Ça, c'est un classique de sa part. Mais je suis très heureux de le recevoir puis je te laisse le présenter.
Ben écoute, moi, là, c'est Roger Brulotte, l'invité. On va l'amener dans quelques secondes. Mais moi, qui me rencontre, là, c'est jamais Sylvain. Salut Sylvain, c'est le grand. Salut le grand. Comment ça va le grand? C'est ça le grand. Moi, il m'appelle le grand. Donc, on va aller voir le petit. Salut, Roger.
Bonjour, messieurs. Le grand coach du receveur. Quel joli.
Hey, Roger. Je le disais un peu dans mon intro, tu es un gars qui a un impact positif toujours sur les autres. Tu parles, tu aimes ça parler des autres. Là, j'aimerais ça qu'on parle de toi un peu. Écoute, je vais te faire sourire. Ce dimanche, dans le Journal de Montréal, il y avait un super reportage que tu as fait sur Jacques Doucet.
Oui.
Encore une fois, là, tu as mis ton ami Jacques à l'avant-plan. Puis là, j'ai dit, ah, regarde, Roger, là, il est habitué, il connaît des bonnes questions. Fait qu'on va lui poser quelques questions qu'il a posées à Jacques. La première, tu vas la trouver un peu curieuse parce que c'est « Tu es natif de Saint-Henri ».
Non.
Et non. Non, c'est ça. Ça, c'était genre. Fait que mon Roger, Roger, t'es natif de où?
Les Loisirs-Saint-Eusèbe, au Chalaga, puis Frontenac. Salut, Hogan, pour être exact. C'était les Loisirs-Saint-Anselme, c'est ça que j'allais jouer au hockey quand j'étais plus jeune. Puis à même âge, je jouais au baseball à Loisirs-Saint-Eusèbe. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir dans l'Est de Montréal. Je viens d'un quartier défavorisé. Puis je vais vous expliquer quelque chose, c'est quoi être défavorisé, puis... J'essaie de comprendre dans mon cas. Je mangeais 3 fois par semaine. J'allais à l'école. Je jouais au hockey avec mes chums. Je jouais au baseball avec mes chums. Il ne nous a jamais rien manqué de luxe si on ne connaissait pas ça. Fait, quand quelqu'un dit que j'étais défavorisé, ça doit être ça. Je ne sais pas.
Imagine si tu avais été favorisé.
J'aurais jamais été qui que je suis aujourd'hui.
Tu n'aurais pas été plus heureux. Là.
Non, mais écoute bien, il y a des gens défavorisés à ne pas confondre. Il y a des gens qui vivent des moments là, dans mon coin, ce que je demeurais, là, c'était pas le même luxe que moi j'ai vécu. J'ai été chanceux. Moi, le sport m'a aidé beaucoup à percer à travers des différents problèmes de société qui existaient. Mais moi, j'ai des chums de deux côtés de la clôture. Il y en a qui sont en dedans de la clôture, puis moi, je suis l'autre bord de la clôture. Et alors, c'est pour ça que quand je regarde ça, là, le sport m'a aidé beaucoup à passer à travers des affaires.
Là, Roger, là, tu parles souvent des tornades, tu viens juste d'en parler, là, des Loisirs Saint-Eusèbe. C'est quoi? Je sais que c'est probablement un organisme dans ton coin, mais pourquoi t'en fais tout le temps? Tu fais souvent référence à ça. Est-ce que c'est un organisme qui te touche personnellement, qui vient te chercher?
Mais nous été deux autres, je ne sais pas ce que j'aurais été. Ces gens-là, à cette époque-là, ils prennent soin de nous autres, des entraîneurs bénévoles, les organisateurs qui cherchaient de l'argent, tu sais. C'est eux autres qui m'ont mis au monde. On avait des règles à suivre assez vert. OK, assez vert. Fait quand je dis Loisirs Saint-Eusèbe, je suis sérieux. Il y a des affaires que Loisirs Saint-Eusèbe, on n'aurait jamais accepté qu'aujourd'hui, on accepte partout dans le sport. Et, tu sais, je dis toujours aux gens, là, vous êtes tous les deux là, le grand et le catcher. Vous posez une question, OK? Dans une population de 25 000 personnes, parce que notre quartier est à peu près ça dans ce temps-là. En connaissez-vous bien qu'il y a eu un gars qui était 2 joueurs d'Ligue nationale, un qui a gagné 9 Coupes Stanley? Un qui a joué avec les Flyers, un qui a joué avec les Dodgers, un qui était président du Canadien, puis l'autre un commentateur. En connaissez-vous beaucoup de districts de même, vous autres?
Non, ça pas bien. Ben.
Non,
ça s'appelle les deuxièmes.
Nous autres, à Trois-Pistoles, on n'était pas ça, 25 000, fait que c'est pour
non,
ça
mais
que...
Non, mais Trois-Pistoles, j'ai vu Elvis.
Ça n'a pas fait ça, mais...
Vous avez vu Elvis?
Fabien Rioux. Fabien International. On avait Victor Lévy-Beaulieu.
C'est pour ça que je te dis ça. Quand tu regardes autour de tout ça, on était un coin, les Loisirs Saint-Eusèbe m'ont enseigné comment jouer à balle, m'ont enseigné comment être respectueux et surtout respecter l'autorité, même si ça ne faisait pas notre affaire. Ça, ils nous ont enseigné ça.
parlant de ta carrière de joueur de balle, toi, tu jouais à quelle position, puis tu as joué jusqu'à quel niveau? Tu es un joueur de deuxième but?
J'ai été receveur, puis au milieu de l'avant-champ, aux troisième belle occasion. J'ai terminé ma carrière junior. J'ai terminé la Ligue junior majeure, aujourd'hui, on appelle la Ligue de baseball junior du Québec. À cette époque-là, c'était la Ligue Montréal junior. Puis à cette époque-là, le passe-y comme fou, là. Claude Mayotte, Ron Fournier, Michel Bergeron, Pierre Lacroix, qui est devenu directeur général de l'Avalanche et des Nordiques, moi-même, Pierre Ladouceur à la presse, Richard Milo, journaliste. Et on avait une gang qui a joué à balle ensemble.
Michel Bergeron, il jouait ça en même temps que toi?
Oui, on jouait tous les joueurs, je viens de te nommer là, c'est tout en même temps.
Parce que Michel, lui, il a déjà joué à Cuba contre Fidel Castro, hein?
Oui, lui a déjà joué à Cuba avec une équipe d'étoiles que l'organisation de Rosemont avait formée, puis il avait été joué là-bas. Fait que quand tu regardes notre gang, nous autres, le sport nous a aidés. On se voyait l'été, quelques-uns pendant l'hiver, pas autant, mais l'été, on se fréquentait sur les terrains de balle. Tu sais, moi, disons, je jouais à balle, là. Moi, je jouais au Parc Laurier, puis je jouais avec La Fontaine, OK? Puis quand je jouais au Parc Console, aux Saint-Eusèbe, au Parc Console, aux Saint-Eusèbe, c'était incroyable. On jouait, c'est un beau petit stade de baseball qui existe encore aujourd'hui, mais tu regardes ça, c'était fun. On allait jouer ensuite de ça au Parc La Fontaine, encore une fois. Pour Parc Console, qui est-ce qui vient de voir? Robert Gravel, fondateur de la LNI.
Ah ouais, hein?
Je pense que c'est lui qui a commencé à apprendre comment faire des jokes. Mais il venait nous voir jouer. Au Parc Laurier, qui était là? C'était monsieur le premier ministre, Robert Bourassa. Il venait nous voir jouer à balle. Ensuite, on a eu l'avocat Frank Choufi et le juge Yves Mirand, qui ont été nos présidents d'équipe. Alors, quand tu regardes ça, on a été choyés. Le président de la Ligue, c'était Maurice Richard. Fait que, tu sais, on allait jouer à Longueuil, c'est le père à Pierre Bouchard, Émile, qui était président. À cette époque-là, les gens étaient impliqués autant hockey, baseball. C'est pour ça qu'on a été touchés beaucoup par ça. Aujourd'hui, malheureusement, on prive les jeunes de pratiquer plus qu'un sport. Et je trouve ça malheureux. Puis quand on voit les joueurs d'Europe qui s'en viennent ici, ils savent tous jouer au hockey. Mais sais-tu que ça joue au soccer aussi?
Oui, mais c'est ça que j'allais dire, là, Roger, parce qu'à l'époque, c'était le bon temps où les jeunes pratiquaient plusieurs sports. On était multidisciplinaires, puis c'est de moins en moins le cas aujourd'hui.
C'est de moins en moins le cas à cause des fédérations et aussi des... Moi, j'appelle ça des entreprises d'affaires. Des entreprises d'affaires qui partent des programmes hors saison habituelle pour faire de l'argent. Tu sais, regarde le baseball.
Tu jouais-tu au hockey, toi, Roger?
Oui, jusqu'à junior. Jusqu'à junior. J'ai eu beaucoup de fun. Non, junior, j'avais des gars qui étaient bien ordinaires contre moi. Michel Bergeron jouait avec moi à Laval. Contre nous autres, on avait des Cournoyers, Savard. Je pense qu'ils ont joué à la Ligue nationale, je ne suis pas sûr. Mais...
Oui, ils me disent quoi? Savard, me dit quoi, Cournoyer? Ah oui, c'était pour le Canadien. Hein?
Je pourrais continuer à te dénommer. On était à l'époque, à ce temps-là, on jouait dans la Ligue métropolitaine junior, parce que la Ligue du Québec, c'était l'autre côté, vers Drummondville, au bord. Mais Cournoyer, on jouait de baseball, c'était incroyable. Joueur d'arrêt court polyvalent, avec puissance, tu fais le tour. Ron Fournier, gardien de but à Drummondville, t'es un bon joueur de balle aussi. Et tu peux continuer, Guitté, qui était un bon joueur d'aller-court à Saint-Henri, a signé avec les Nordiques. T'sais, on faisait les deux à cette époque-là. Mm-hmm. Il jouait à l'aller-court, il jouait à l'avant-champ. Il n'était pas trop pire. Mario le mieux, quelque chose de même. Mais il était pas... Tu fais le tour. Bergevin, Daigneau, ça jouait tout ensemble à Villemort à la balle. C'était incroyable.
Même après ça, Pierre Turgeon, Stéphane Matos, des gars qui ont été aux séries mondiales des petites ligues, représentés Rouyn-Noranda.
Pierre Turgeon, c'est un des premiers matchs que j'ai décrit à la télévision à Radio-Canada avec Lionel Duval. Il lançait les petites ligues de championnat à Boucherville. Puis après le match, il était venu me voir. Il avait lancé, puis c'est vrai. Et son agent, quelques années plus tard, c'est mon chum Pierre Lacroix. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses, Roger? J'ai dit, c'est plus facile de percer au hockey qu'au baseball. Au baseball, c'est long. Au hockey, à 18 ans, tu s'en vas à la Ligue nationale. Au baseball, tu ne vas pas à la Ligue nationale. C'est ça que la différence. C'est trop long et pas assez payant dans le baseball. Le gars de la mineur, là, à 1800$ par mois pendant 6 mois, là, je regrette. Là. Je regrette. Tout de suite, fait la livraison quelque part. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Et dans, dans ton cas, Roger, tu as fini par percer au baseball, OK? Mais quand tu t'es joint avec les Expos, j'aimerais ça que tu me dises c'était quoi ton premier emploi chez les Expos, puis comment tu es rentré dans l'organisation. Puis après ça, je vais avoir une anecdote pour toi.
Moi, j'étais à l'époque entraîneur avec les. Qui ont le CS au Parc Laurier. Il y a deux joueurs qui jouent pour nous autres. Denis McSween, un grand lanceur gaucher de Valleyfield. Et, je n'ai pas dit Valleyfield, hein, Valleyfield, parce que ça ne vient pas de là. Et ensuite, ça, je regarde un autre, Michel Destalère, dont son neveu est responsable de l'équipe à Montréal.
Éric
Destalère. Et quand je regarde ça, ces deux-là sont là. Et Richard Bellec, qui est le président de Baseball Québec, m'a recommandé André Pratt, qui était lui recruteur pour les Expos à Montréal. et au Québec, il m'a engagé pour signer ces deux jeunes-là. Et c'est là que ça a commencé, mai 69. Et là, à sorte de ça, ben, ça a continué avec développement des joueurs, recrutement, relations publiques. J'ai fait tous les... J'étais chanceux. Les gens disent, tu as été là pendant presque 50 ans. Oui, parce que je changeais d'emploi souvent. Je n'ai pas eu le temps de me tanner. Je ne pense pas que j'allais demeurer à un poste pendant 50 ans. J'ai changé de poste tellement souvent, ça m'a aidé.
Mais quel poste qui t'a le plus comme allumé? Nous, on te connaît comme analyste, comme colorman à la radio, à la télévision, mais dans tous tes emplois que tu as fait avec les Expos, lequel qui t'a intéressé le plus?
Mais sans aucun doute, le développement des joueurs. Le développement des joueurs, c'était le fun. Mais je m'étais aperçu qu'un Québécois n'avait aucune chance francophone. Je suis obligé de me faire dire deux fois. La première fois, c'est Marc Cloutier qui est venu me voir et dit « Roger, tu comprends pas, ils n'en veulent pas de Québécois sur le côté baseball. » J'ai dit « Arrête donc, Marc. » Fait que lui, il m'a amené sur le côté relations publiques, médias. Et ensuite ça, je suis retourné dans le baseball. Roger Deslandry est arrivé, vice-président des Expos. Puis en 79, il dit « Roger, ils n'en veulent pas de francophones, t'en viens avec moi dans le marketing. » Et ça, ça a ouvert une autre carrière, sans aucun doute.
L'anecdote que j'ai, Roger, là, c'est Tim Raines qui me l'a raconté. Okay? Quel libéraux. Ça devrait être quand tu étais peut-être relations publiques ou marketing. Je l'avais rencontré à Dunedin en Floride à un camp, puis il m'a dit « Faut que je te raconte de quoi sur Roger. » On était avec la caravane des Expos, puis dis-moi, je venais d'arriver là, avec les Expos, puis on s'en allait à Québec, à des places qu'ils parlaient juste français. Fait que Roger était mon traducteur. Il dit moi, je répondais à une question, ça durait à peu près 30 secondes, puis j'étais bien sérieux. Puis quand Roger faisait la traduction, ça durait 2 minutes par réponse. Tout le monde était trempé autour. C'est clair que j'ai dit des affaires dans ma vie que j'ai jamais dit.
C'est arrivé à plusieurs joueurs de dire, tu n'as pas d'inquiétude. À cette époque-là, j'étais de la mise en marché. OK? Après ça, j'ai fait ça aussi quand j'étais sur le côté commentateur. Mais quand le monde pose une question à un joueur, tu veux une question plus longue, mais vu que je connaissais le joueur, je mettais la question, la réponse est un peu plus longue, des fois avec du mot. Et des fois, je disais l'inverse de ce qu'il disait. Au Québec, on comprend l'anglais. Là. Et mettons qu'il disait, ah, mais écoute, bien, tel joueur était bon. Ouais, il vient de dire que le joueur est pourri, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est, là, le monde, ça riait. Il disait, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec les joueurs, beaucoup.
Tu parlais du côté anglophone. Il y a quelque chose que les gens peut-être ignorent. C'est que toi, dans ta famille, ta mère, Hazel, était anglophone, hein?
Ma mère est de l'Angleterre. Et c'est pour ça que c'est Roger avec un D. Le D vient de là, parce que ma mère, elle a mis le D pour le côté anglophone. Elle m'a toujours dit, ton nom, c'est Roger. Trompe-toi pas. Mm-hmm. Mais elle m'a toujours dit, ton nom, c'est Roger, mais t'es francophone.
Puis à la maison, vous parliez francophone, anglais, les deux?
Les deux. En anglais avec ma mère, puis en français avec mon père. Puis avec ma soeur, mais les deux langues.
De ton contact avec les joueurs à l'époque des Expos, là, quel joueur t'as le plus marqué, là, littéralement?
Mais ça dépend de ce que tu veux dire par ça, le grand. Je m'explique. Comme joueur, comme personne, si je combine les deux ensemble, André Dawson, c'est peut-être pour moi le gars que j'ai eu plus d'infinité avec lui, point de vue humain, côté humain. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Gary Carter, ne pas confondre. Gary Carter, aux yeux du monde, numéro un. Dans mes yeux, à moi, il était numéro un aussi, mais j'étais plus proche de Dawson à la fin de sa carrière que je l'étais avec Gary Carter, que Carter est parti. Mais les années que j'ai passées avec Carter, me promener au Canada avec lui parce qu'il faisait des tournées promotionnelles. Puis j'étais là encore une fois pour traduire ce qu'il disait. Fait, je l'accompagnais partout. C'était bien le fun. J'ai fait ça avec Rusty Staub aussi. Puis avec Dawson, c'était une autre histoire. Dawson, quand il est arrivé avec les Expos, j'étais impliqué dans les mineurs dans ce temps-là. Je me souviens encore que Tiguy et moi, son nom reste en paix. Quand il est arrivé dans le baseball majeur, on a vu un camp qu'on appelait ça Futurama. On amenait nos meilleurs joueurs au Parc Jarry pour les voir à l'œuvre. Puis on avait amené André Dawson. J'avais dit à Tiguy, tu vois ce gars-là? Il est incroyable. Il va être un membre du Temple de la Renommée. Et c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai aussi dit à Denis Cazavant, à un moment donné, nous étions à Indianapolis pour un match hors concours, puis il y avait un gars au deuxième but. Là, j'ai dit, Denis, Caz, tu vois le gars au deuxième but, là? Lui, il ne jouera jamais des majeurs. Casey Kendall, il a joué pendant 10 ans des majeurs. Ça a été bon d'un bord, puis d'un bord, ça n'a pas été aussi.
Carter, tu as été proche de lui, mais c'est juste jusqu'à temps que tu te fasses kidnapper.
Oh, mais si on a vu. Mais Carter, ça a commencé, écoute bien.
Carter. Surprise.
Oui. Quand ça, on est arrivé, Gary Carter, j'ai été impliqué dans ces négociations de contrat quand il signait avec les Expos en sortant de secondaire. Quand tu es arrivé à Jamestown, le premier gars que tu es allé chercher à l'aéroport, c'est à moi, pour l'amener à l'aéroport. Puis quand on est parti, je me souviens encore, on part de l'aéroport à Jamestown, pour s'en aller à Jamestown. Il n'a jamais parlé de Jamestown, il a juste parlé de Montréal. Il avait hâte d'aller à Montréal. Mm-hmm. Et sur le côté, surprise, m'avait invité avec le coup est monté, avec Gary Carter d'aller quelque part, puis ils m'ont kidnappé. Et là, Gary Carter courait à côté d'autobus pendant que j'étais caché, puis il pensait que j'étais dans une valise, le char. Puis finalement, c'est lui qui m'a libéré. Pendant une heure de temps, il a poursuivi le char à pied, a embarqué tout ça, juste pour être sûr que je sois correct. On lui met du fun.
Puis là, le char...
D'ailleurs, le matin de ses
funérailles, son épouse...
Oui?
Vas-y, Roger.
Le matin de ses funérailles, son épouse et ses enfants sont venus vers moi et ont dit, Roger, hier soir, on a écouté Surprise. C'est assez spécial. Oh, wow. Et si vous êtes à Montréal... Descendez la rue Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, c'est une rue à l'est de Saint-Laurent. Et laissez-moi vous dire, c'est pas une côte. Tu viens de partir, il n'y a rien. Tu t'en vas, et si tu vas trop vite, tu vas survoler peut-être 20 pieds en l'air. Et je n'exagère pas. Donc, la voiture est dans le vide pendant 20 pieds, elle donne contre le sol. Mais je n'étais pas dans la voiture. Là, le montage est arrivé, je sors de la voiture. Mais juste descendre cette côte-là, le cascadeur n'était pas pris.
Ben en fait, quand ils ont ouvert la valise, Roger, si je ne me trompe pas, au lieu d'être toi qui étais dedans, c'était rendu Youpi.
Oui, mais on l'a fait. Mais Youpi n'a pas descendu non plus, par contre.
Ah non, ouais. C'était
il y avait personne. Il y avait juste le conducteur qui était là.
Un autre, je parlais du début des questions que tu avais posées à Jacques, OK? Puis il y en avait une, c'est « Es-tu déjà tombé de ta chaise en plein match? » En fait, il racontait qu'il y avait eu une fausse balle dans le studio, puis qui était tombé à renverse, puis il a gardé son professionnalisme, puis il a gardé au micro. J'aimerais ça que tu me racontes ça, parce que ça devait être drôle en maudit avec toi à côté.
Nous étions à Fort Lauderdale. À Fort Lauderdale, au camp d'entraînement, on était du côté du troisième but, puis les fausses balles arrivaient vite dans le studio. Et là, le frappeur gaucher frappe une fausse balle dans notre studio. Moi, je me suis tassé. Jacques, lui, pour éviter la balle, lève sa main, perd l'équilibre, la chaise d'un bord renversée, il tombe, garde son micro, attrape le micro, il le remet, là, il est au sol, puis il décrit cette fausse balle. Que j'ai ri. On a ri pendant 10 minutes, on n'a jamais fait la manche. On n'a jamais décrit. Ah, pas de rire. On lui bien du plaisir.
Le bonsoir, elle est partie, là, qui t'a rendu. Ben, qui t'a rendu célèbre. Tu étais célèbre avant ça, là, mais
écoute,
ça,
c'est ça, qui rendu célèbre.
Ça te décrit bien, là. Comme la première fois que tu as dit ça, bonsoir, elle est partie, tu te rappelles, tu sais quand?
Un après-midi à San Diego. Un match en après-midi, coup de circuit, je dis bonsoir, elle est partie. Jacques se retourne vers moi, il dit Roger, on est en après-midi. J'ai dit oui, mais quelque part dans le monde, là, c'est le soir. Je ne sais pas où, mais quelque part dans le monde, c'est le soir. Et ça a commencé de même. Quand je suis arrivé comme commentateur, j'ai été choyé pendant des années, à compter de 69. Le média francophone a été très généreux envers moi. J'ai été impliqué dans beaucoup de, encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, beaucoup de levées de fonds, dans des affaires de baseball, de hockey. Encore aujourd'hui, j'assiste à des matchs de hockey, le Midget 3, le vendredi soir au hockey, je suis là presque tous les vendredis soirs à Terrebonne. Je vais voir justement Esther Blondin jouer, ou je vais ailleurs. Le hockey junior, la même chose. Je vais au football, je vais voir le football collégial, je vais voir le football secondaire. J'assiste à des matchs de balle molle. C'est là ton peuple. Il faut que tu apprennes qu'est-ce qui se passe. Et j'y crois beaucoup à ça.
C'est clair. Tu es déjà venu à un de mes matchs en plus.
Je suis même allé voir l'équipe au grand. Le grand, son équipe jouait à Repenti. J'ai été le voir jouer.
C'est vrai.
T'as quelqu'un d'un petit pioui à tombe dans ce temps-là, le grand? T'as toujours.
À tombe. On est rendu moustique, là. Ouais, ouais, il va falloir que tu reviennes updaté.
T'as juste à m'inviter, ça me fait plaisir. Mais je fais ça régulièrement. Je trouve que c'est important. Il faut remettre à la société. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'étais plus jeune, les Claude Prevost, les Jean Béliveau, les Émile Bouchard, Dickie Moore, ça venait nous voir jouer à la balle. Puis des fois, ça venait nous voir jouer dans des petits tournois de hockey des Loisirs Saint-Eusèbe. Ils étaient là. Fait que moi, j'ai toujours dit, si les autres ont pu le faire, c'est des membres de Centre de Renée. Pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi je ne pourrais pas faire ça?
Ça fait plaisir.
Là, tu parlais de ton. Ben oui, puis là, tu parlais de ton bonsoir à la partie, mais je sais que tu as essayé de te diversifier là, avec les années. Puis des fois, tu en lâches des solides en ondes. Est-ce que c'est préparé, ça, Roger, ou c'est
jamais.
Comme. Non, hein?
il y en a, Thomas, tu vas écouter des gens, c'est pas spontané. Si c'est pas spontané, le monde se l'aperçoit.
Ouais.
Mon bonsoir est parti dans un party. Mon bonsoir est parti en quatrième manche, début rempli, c'est pas le même bonsoir. Mm-hmm. Puis le bonsoir est parti en fin de neuvième manche avec un grand chelem, c'est pas le même bonsoir. Tout dépend de la situation et c'est mon émotion, ma passion qui m'emporte.
Point. Moi, je me rappelle d'une séquence là, où que j'étais comme wow, Roger, là, il l'a eu. C'était Russell Martin. Russell Martin.
Yankees, il a fait son coup de circuit au champ posé dans la grotte.
Là, t'as crié le Québec danse, le Canada danse. C'était écœurant. C'était bon.
Mais c'était spontané. Bon. C'était spontané.
Oui. Ouais.
Il a fait un coup de circuit au Yankee Stadium au champ posé.
Te rappelles-tu? Tu te rappelles de ça, le Québec danse, le Canada danse?
Tu sais, là, dans le sport professionnel, il n'y a pas grand jeu que tu ne te souviens pas. Surtout s'il y a eu un impact. Des fois, un jeu de routine, on va l'oublier. Mm-hmm. Mais le jeu qui a eu un impact, tu ne l'oublies pas. Et ça, tu peux partir de 69 jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai vu ce jeu-là d'impact, sois pas inquiet, je m'en souviens.
Pour terminer la portion personnelle de l'entrevue, là, je te parlais de... Écoute, je vais y aller avec la dernière question qui était la dernière question que tu as posée à Jacques, là, mais elle va peut-être être bizarre un peu. C'est ta conjointe, Corey Irriman, t'a toujours appuyé.
C'est pas la mienne.
On s'entend que c'est la conjointe à Jacques.
Si c'est possible, veux-tu éviter de faire des problèmes avec mon collègue de travail? Si c'est possible.
C'est juste une joke. Mais je voudrais juste que tu me parles de l'importance de ta conjointe, de ta famille.
Dans le travail, là, n'importe qui, ta conjointe, ton conjoint, joue un rôle important. Parce que c'est la seule personne qui te connaît quand tu es fatigué. C'est la seule personne qui te connaît si tu as un doute de quelque chose. Puis cette personne-là doit t'appuyer. Mais par contre, tu dois l'appuyer toi aussi.
Mm-hmm.
Souvent, là, on a tendance à oublier que l'autre côté a besoin de l'appui aussi. Fait que je trouve ça tellement important, le rôle des femmes, des maris, des conjoints, des conjointes. Je trouve ça très important.
On est d'accord. Excellent. On salue les nôtres, Ben.
Yes. OK, oui, vraiment. Hey, moi, la mienne, là, Roger, tu déjà dit ça? Tu sais quoi, ses initiales?
Non.
MLB.
Wow!
Tout est dans tout.
Je l'ai bien choisi.
Malheureusement, elle n'a pas un match parfait entre les mains. Allez, grand chelem, elle n'a pas le match parfait.
C'est vrai. C'est mieux que rien. Mais moi, par exemple, j'ai un match parfait.
Ça, je suis d'accord. Oui,
ça, c'est clair. Roger, tu l'as dit tantôt, là, tu t'impliques dans la communauté et tu redonnes à la communauté et tu le fais avec la Ligue de baseball élite du Québec. Parle-nous de ton implication dans cette ligue-là. À quel point c'est important pour toi?
Mais écoute bien, j'étais un des premiers à fonder Baseball Québec. J'étais là au tout début. Et j'étais un gars, jamais je prends des photos de moi-même. Je m'implique, mais tu vas faire des dossiers, je ne suis pas là. Mais les premières rencontres en 68, quand on a commencé à fonder Baseball Québec, dans le sous-sol Immaculée-Conception, j'étais là. Et j'ai toujours été là. Baseball junior, j'ai joué. Et avant de devenir président, j'étais 16 ans comme consultant au président. C'est-à-dire, Richard Bellec m'a posé des questions sur différentes décisions. Et je suis devenu président parce que Denis Baillarger, que son nom reste en paix, avait changé d'emploi à la ville de Laval, puis il ne peut plus être président. Fait que lui a occupé le rôle que moi j'avais, il est devenu mon adjoint. Mais lui, c'est lui qui avait le pouvoir. Puis après ça, ben c'est moi qui ai dirigé la Ligue. Et la Ligue n'est pas compliquée, c'est les jeunes. On fait des règlements, on est là pour une raison. Développer les jeunes et s'assurer que les jeunes puissent s'amuser. C'est tout. C'est à nous autres d'aller bien les gérer, à bien les entourer. Puis à compter à ce moment-là, tu n'auras pas de problème.
Mais il y a un super calibre hein, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. On a vu dernièrement, juste avec le repêchage, Connor Angel, c'est un gars qui a joué pendant 4 saisons, 3 et des poussières pour la salle. Anthony Quirion qui a signé comme joueur autonome avec les Phillies de Philadelphie. C'est un gars qui a joué 2 ans à Quaticook, 2 ans à Longueuil.
Toro.
Ouais. Jonathan Lacroix.
Russell Martin. Si tu fais le tour des joueurs qui ont joué dans notre ligue, c'est une ligue qui est assez... comment je pourrais dire ça? A produit, mais pas reconnu à sa juste valeur.
Mm-hmm.
C'est ça qui est le problème de la Ligue junior. C'est parce que quand tu parles avec les gens, des partisans qui vont, les partisans sont tellement, tellement loyaux. Mais comme je te dis, on a des joueurs. Et pourquoi que moi, je ne veux pas prendre le crédit que les joueurs viennent dans notre ligue parce qu'ils ont passé ailleurs avant. Il n'y a rien qui me frustre plus que la personne, lorsque le joueur a joué chez vous, puis tu oublies de dire qu'il a joué ailleurs aussi, je trouve ça frustrant.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est un manque de respect envers les bénévoles qui en ont plus soin.
Toi, tu es dans les médias, est-ce que ça te fâche? Je comprends là, que la réalité du hockey est autre ici, là, mais tu sais, quand on compare la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis la Ligue de baseball junior élite du Québec, là, tu sais, je veux dire, je comprends que le hockey junior majeur doit être mieux couvert, mais pas une différence aussi énorme que ça.
Mais tu travailles dans le média, on travaille tous les trois dans le média. C'est mm-hmm. quand la période estivale arrive, ça s'appelle congé aussi pour les gens qui travaillent. Mm-hmm. Plus souvent qu'autrement, l'été, il te manque du personnel. Et le baseball, le soccer, tout ça, c'est à nous autres de prouver qu'on est des gens du calibre que la Ligue junior au hockey mérite. Ton grand, je pense, le défi que tu as, c'est que ton joueur qui sort du junior au hockey s'en va dans la Ligue nationale. Ton joueur qui sort du junior au baseball ou de l'ABC s'en va ailleurs avant de se rendre à la nationale. Et on parle d'eux autres seulement quand ils sont dans la Ligue mm-hmm. nationale. C'est ça qui ouais. va.
C'est ça qui est plate. Tu sais, prends un gars comme Charles Leblanc, là, qui joue dans le 3A. Qui
n'est pas connu du tout au Québec.
Personne qui en parle. Tu sais. Puis Taureau, qui est une super vedette, mais Leblanc, là, il n'est pas très, très loin derrière Taureau. Là, tu sais.
Donc, la porte à tourne, il est dans la porte. Qu'est-ce qu'il va arrêter, mais il est là. Mm-hmm. Mais il va devenir connu une fois qu'il arrive là. Éric Gagné, il lançait bien partout. Personne n'en parlait. D'un coup, ouf, il s'est mis à gagner des matchs de Cy Young, tout ça. Il est devenu une vedette. Il était avec les Dodgers bien avant de gagner. Mm-hmm. Mais c'est ça notre mentalité au Québec.
C'est de valeur.
C'est nos joueurs. Le hockey est là. Puis il n'y a rien de mal dans ça. Mais moi, ce que je trouve encore plus frustrant, j'essaie de comprendre. Regardons ce qu'on produit au baseball, ce qu'on produit au tennis, ce qu'on produit au soccer côté professionnel et les sports que je viens de te nommer amateurs n'ont pas la couverture qu'ils ont besoin. Ils ne l'ont pas. Non. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai une idée, mais je ne veux pas embarquer dans ça. Mais c'est là qu'est le problème. Regarde l'impact, le nombre de Québécois. On va arrêter, là. Piette, c'est un des grands.
Mm-hmm.
C'est un vrai. Il joue avec l'équipe canadienne toute. C'est un gars de chez nous, ça, là. On a perdu beaucoup de Piette.
Pas assez, en tout cas.
Non, pas pour la valeur qu'ils nous donnent.
Non.
Nos joueurs de basket, on parle d'eux autres parce qu'ils sont dans NBA, mais quand ils ont joué au collège dans nos différents cégeps ici, là, ils étaient bons aussi. Parlez-moi la dernière fois que j'ai fait des papiers sur le cégep au basket sur le base
NBA. Le meilleur exemple de ça, Roger, c'est les Jeux olympiques qui arrivent.
Ah, ben non,
les Jeux olympiques, là, tabarouette, il y a des athlètes, là, ils vont gagner une médaille au championnat du monde, mais il n'y a personne qui en parle. Puis finalement...
Quand il n'y a personne qui en parle, c'est une volonté médiatique. Et je reviens encore. Malheureusement, les sports d'été, plus souvent qu'autrement, les gens sont en vacances. Et je comprends que... Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. Ça remonte à des années. À l'époque que je jouais, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est parce que les expos n'étaient pas là. Tu n'avais pas d'autres compétitions professionnelles. Nous autres, on joue au baseball, là, pas que la Fontaine, 7-8 000 personnes. Là, 10 000 personnes à la... Tu allais jouer à Longueuil, tu avais 8-9 000. Tu allais jouer à Rosemont, tu avais du 10 000. C'était incroyable.
Mais quand en même temps, Roger, je suis obligé de te dire, là, puis on ne fera pas le procès de toute l'entreprise médiatique, là, mais je suis obligé de te dire que cette semaine, c'est le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Après ça, il va y avoir le repêchage de la Ligue nationale, puis le marché des joueurs d'ouverture. Les journalistes,
place
là,
pour rien d'autre.
Ils vont tout en parler, puis même s'il y a du monde qui sont en vacances, là, fait que ça va au-delà du fait que c'est l'été, les gens...
Oui, mais là, c'est pas juste l'été, c'est ton hockey présentement, mais c'est ça, il ne faut pas
se tromper. C'est sûr.
Ton hockey, c'est ton numéro un. Si tu ne trouves pas de claquen, tu ne trouves pas de repêchage, tu ne trouves pas les agents libres,
c'est sûr.
Tu vas arrêter de travailler.
Non, c'est sûr.
C'est certain. Je pense que on doit prendre notre place. On doit y aller. Tu sais, il y a du travail à faire pour le baseball, le soccer et l'athlétisme, tout ça, de se auto-vendre.
Mm-hmm.
Et le sport amateur est présentement, malheureusement, combien de fédérations que tu as au Québec, je ne sais pas, mais c'est des entreprises individuelles et non pas collectives. Si on était collectif tout ensemble, là, on serait puissant, mais on ne l'est pas. Si on arriverait avec le temps. Tu sais, tout le monde dit, hey, je vais aux États-Unis, à l'école, je vais jouer pendant 12 mois. C'est pas vrai. Le baseball ne se joue pas 12 mois par année dans les écoles aux États-Unis. Dans les programmes individuels, oui, mais dans les écoles, non. À l'université, vous connaissez ça, vous suivez ça autant que moi. Tu ne joues pas 12 mois par année au baseball. Ouais. L'école secondaire, tu ne joues pas 12 mois par année. Tu t'entraînes, mais tu ne joues pas 12 mois par année.
Mm-hmm.
Et quand ça va, les écoles secondaires et universitaires aux États-Unis, tu joues au basket, tu joues au baseball et peut-être au football. Surtout côté secondaire. Et là, quand tu arrives plus vieux, quand tu arrives à l'université, tu fais ton choix. Mais côté secondaire, tu pratiques tes trois sports plus souvent qu'autrement.
Absolument.
Mais nous aussi, on n'a pas la chance parce qu'on a trop de programmes 12 mois par année. Et moi, je pense que 12 mois par année, tu arrives à la fin, le jeune est tanné. Il est tanné de pratiquer son sport et c'est là qu'on perd les joueurs. Ils n'ont jamais le goût d'y retourner parce qu'ils l'ont manqué. La tarte au pop, la crème en glace, à tous les jours, à un moment donné, tu viens tanné. Mais si tu en manges une fois par semaine ou une fois par mois, et qu'elle est bonne.
C'est comme des, c'est comme des Oreos puis un verre de lait, ça, Roger.
Je viens juste de finir.
Tu parles des jeunes, Roger, puis on va falloir te laisser aller. Tu as un match ce soir sur les ondes de TVA Sports entre les Blue Jays et les Red Sox. Mais avant de partir, il faut que tu me parles de Vladimir Guerrero, fils. Ben, si tu as connu le père, tu vois le fils aller maintenant. As-tu des comparatifs? Comment tu vois ça?
Maurice Richard était très bon. Et Henri était très bon. Puis chacun son style. Le meilleur, c'est le meilleur. Il est bon, Vladimir. Il est excitant. Mais ce n'est pas le père. Il n'y a pas la vitesse du père. Il n'y a pas le bras puissant du père. Il n'y a pas la défensive du père. Le père n'a jamais joué au premier but. Le père a joué au champ extérieur. Mm-hmm. Avec un bras extraordinaire. Il ne faut jamais oublier, le père volait des buts. Mais au bâton, il est spectaculaire. Au bâton, sans aucun doute. Quand il arrive au bâton, il est aussi spectaculaire que le père, sauf pour la longue balle, et non pas pour le double ou le triple. Le père, lui, quand il se présentait au bâton, tu disais qu'il se rentre sur les buts. T'es comme Tim Raines. Rends-toi sur les buts, puis ça va être excitant. Tandis que Vladimir, s'il arrive au premier but, ça arrête là. Junior, je parle. Mais senior, quand il va au premier but, il va voler le deuxième, il va voler le troisième, il va frapper un double dans la ligue, peut-être un triple. Dans le cas de Vladimir, c'est longue balle puis point produit. Alors, tu comprends-tu, il a pas tous les atouts du père, mais il est excitant pareil.
Roger, ça fait
comment
des années
que tu vois
commentateur sportif. Roger, ça fait des années que tu es commentateur sportif. Je me demandais, quand tu fais des matchs encore en studio comme ça, tu as encore la même passion qui t'anime.
Mais je vous parle, là. Je suis passionné. Là.
Ben oui.
Je parle du sport. On parle du sport. Si on n'est pas passionné, on reste chez nous.
Mm-hmm.
Personne ne prend le temps de nous écouter, de nous voir. À côté de ce moment-là, on leur doit le respect d'être passionné. Moi, je vois ça. Et quand je décris un match, là, que ce soit n'importe quel match, que ce soit à 3h le matin ou à 2h l'après-midi, il faut que tu rendes ça aussi intéressant pour la personne qui t'écoute. Ce n'est pas le nombre de personnes qui t'écoutent, c'est la personne qui t'écoute.
Rien d'autre à ajouter.
Ben moi, Roger,
merci, Roger.
Merci d'avoir été là. Puis juste à titre personnel, là, tu sais à quel point je t'apprécie. Tu sais, moi, Roger, entre autres, il y a une des façons que j'ai commencé à te connaître encore plus, c'était quand j'étais statisticien pour les matchs de baseball à TVA Sports. Toujours le fun d'échanger avec toi. Puis écoute, on se parle à toutes les semaines, puis t'es vraiment quelqu'un de très précieux pour moi, puis je te considère comme un ami, Roger.
Bien, je te remercie beaucoup, mais tu sais, j'ai travaillé avec Legrand pendant de nombreuses années, on a eu du fun. On a du fun à travailler ensemble, on s'amuse à travailler ensemble. Et à chaque fois qu'on se croise, on parle. Et la chose la plus importante, là, moi, je décris des matchs. Mais Legrand, toi, t'as l'avenir dans tes mains des jeunes. Faut pas que t'aies perdu ces jeunes-là. Continue à coacher. Ça. Et tant qu'à toi, Ben, mais gars qui frappe au bâton avec un bâton vert, il faut qu'il soit courageux.
je joue à soir.
Ah, mais je m'excuse, mais je vois Guerrero frapper. Prends pas ça personnel.
Il va falloir, je te rappelle.
OK. Mais merci beaucoup,
les gars. Moi, je t'écoute, Roger, ce soir. Donc, bon match, puis grosse série pour les Blue Jays, justement, face aux Red Sox.
Merci beaucoup.
Bye bye. Bonsoir.
Merci. Vous êtes parti. Bye bye.
Bye bye.
Sacré Roger.
Wow. Ben oui, écoute, quelle entrevue. Merci à Roger. Ben, on va terminer l'émission avec notre petit pitch and catch. Écoute, on va faire ça simple aujourd'hui. Je te pose une question directe. Quelle course au championnat tu vas suivre le plus d'ici la fin de la saison? Laquelle t'allume le plus? Mais ben, c'est quand même serré dans plusieurs divisions. Là.
Je vais répondre de façon indirecte, peut-être. Parce que tu as les championnats de section. Moi, ce qui m'intéresse présentement, c'est la course au quatrième as, si on veut, aux équipes repêchées, parce qu'il y a deux équipes repêchées. Puis celle dans l'américaine, là, je trouve qu'elle va être le fun à suivre, entre autres, parce que la présence des Blue Jays. Parce qu'on s'entend qu'avec les Rays et les Red Sox qui sont devant les Blue Jays, ça va être difficile d'aller chercher le titre de la section S de l'américaine.
Quoi que là, on a dans les deux prochaines semaines 7 matchs face aux Red Sox. Ouais. Je veux dire, ça peut quand même avoir un impact autant positif que négatif. Mais cela dit, ça joue sur le terrain. Mais effectivement, tu as en plus les Rays à rattraper, c'est pas évident.
Mais faut que tu en dépasses deux, là. Faut pas que tu en dépasses un, là. Fait que la course au quatrième as dans l'américaine, tu as les Jays, puis tu as un club que j'aime beaucoup, les A's d'Oakland, qui sont toujours là, année après année. Donc,
mais qui sont là en ce moment, là. Les Blue Jays sont à 2,5 matchs des A's, justement.
Ouais, exact. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être cette course-là que je vais suivre le plus. Les Mariners de Seattle sont pas trop loin, mais j'y crois pas, là. Je pense pas qu'ils vont être dans la course.
Les Yankees sont là. Les Angels sont là. Mike Trout va revenir bientôt. Et là, laquelle de ces équipes-là va être acheteur à la date limite des transactions? Là, c'est dans 2 semaines, la date limite des transactions. Donc, tu sais, si les Yankees vont chercher 2-3 gros joueurs, peut-être que là, c'est là que les Blue Jays n'auront pas le choix de réagir. Et puis, ça risque d'être une bataille jusqu'à la fin, mais ça va être serré. Ça va être le fun à regarder.
Le baseball est conservateur, hein? Puis c'était Botzelig, ça, qui avait amené ça. Puis, tu sais, nous autres, on ne l'aime pas bien, Botzelig, mais ça, il faut y donner, là, parce que, tu sais, avant, là, t'arrivais, là, il y avait 130 matchs de jouer dans la saison. Il y avait presque plus de course aux séries. Tu sais, avec la course, puis avec deux équipes repêchées en plus, là, c'est excitant jusqu'à la fin de la saison. Je ne vais pas être nostalgique, mais s'il y avait eu ça dans le temps des Expos, ça aurait
été souvent là.
Il y aurait eu des belles courses année après année. Vraiment. Là, au lieu de se battre seulement avec les Braves ou les Phillies, il y aurait eu. Puis il aurait fait les séries comme quatrième as ou parmi les deux équipes repêchées maintenant, ça c'est certain. Mais toi, Sylvain, c'est quoi ta course?
Ben, la division Est de la Nationale est intéressante, mais il y a 4 équipes, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'équipe qui veut prendre les devants, les mettre. Je pense que ça va lâcher. Puis là, t'as les Phillies, les Braves, les Nationals. Puis c'est pas des équipes qui jouent pour 500 en plus. Puis on se bat quand même pour le championnat. Moi, je regarde plutôt du côté de l'Ouest. Où là, t'as 3 équipes avec genre 14 matchs au-dessus de 500 qui se battent pour la première position. Et là, t'as les fameux Giants que tout le monde...
Personne ne voyait pense, là.
Mais ça, puis tout le monde depuis le début de la saison, non, ça va lâcher les Giants, ils vont pas rester là, ça va être trop intense face aux Dodgers, les Padres qui ont beaucoup, beaucoup de talent à toutes les positions. Mais non, les Giants sont encore là, sont un match devant les Dodgers, 5 matchs devant les Padres, et ils perdent pas, là, ils viennent d'en perdre 2 consécutives, là, mais je veux dire, ils continuent à gagner de façon... inexplicable, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de grande vedette là à San Francisco. C'est tous des vétérans qui, on dirait, sont en mission.
Puis Buster Posey est tellement incroyable. Le retour est venu en force.
Ben oui. L'an passé, il n'était pas là en raison de la COVID. Il avait décidé de prendre un année sabbatique. Peut-être que ça fait du bien à son corps aussi. Là, on sait, tu le sais, là, comme receveur, c'est pas facile là, pour un corps d'être à cette position-là. Donc là, il revient en force, puis je pense qu'il lead le reste du groupe par l'exemple, puis tout le monde le suit. Puis là, ben, j'ai hâte de voir. Moi, je continue à penser que les Giants vont finir par abandonner, mais je veux dire, le talent des Padres et des Dodgers va finir par les rattraper. Il reste quand même une grosse demi-saison. C'est long, une saison de baseball, puis je sais pas s'ils vont être capables de maintenir le rythme.
Penses-tu qu'on pourrait voir 3 équipes de la section Ouest de la Nationale faire les séries avec les 2 équipes repêchées?
Ben moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Même si les Giants là, glissent un peu, ils ont tellement d'avance, tellement de matchs au-dessus de 500, je ne suis pas sûr que les autres équipes dans les autres divisions, là, les Reds, les Phillies, les Braves, là, on joue proche de 500, donc il va falloir vraiment une glissade incroyable du côté des Giants pour que pour que ces équipes-là passent devant.
Qu'il pourrait avoir un match éliminatoire entre 2 équipes de la même section, ça ne s'est pas vu souvent. Là.
Non.
T'imagines, les Giants restent en haut, là, puis là, t'as
Padres Dodgers pour un match.
Ça serait malade. Ça serait malade, wow. Mais ça n'arrivera pas.
Non, je pense pas.
Hey, Sly, c'était super cool.
Yes.
Merci, merci pour tout. Puis, je te souhaite une bonne semaine. En terminant, yes. On termine toujours le podcast en vous rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, besoin de parler, 1-866, appel. On vous souhaite une bonne semaine. Puis moi, à soir, je vais voir si le team building du chalet a profité. On affronte les Mets de Rosemont. 20h au Parc Louis-Riel, c'est un rendez-vous.
Il va c'est avoir un grand classique drive. De cette ligue-là. Ben
oui, c'est clair. C'est comme Padres Dodgers.
Bon match, Ben. Merci à tous. Bye.